Nous reprenons la lecture du crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons à la moitié du 19e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.
Le mal redoublait de violence et sa marche devenait de plus en plus certaine. Les symptômes les plus contradictoires se produisaient. C'était chaque jour un phénomène nouveau, déconcertant toutes les prévisions des médecins. C'est qu'aussitôt que Sauvresy avait une heure de rémission, il revoyait l'abominable scène de la fenêtre et le mieux s'envolait. Il ne s'était d'ailleurs pas trompé. Berthe avait ce soir-là une grâce à demander à Hector. Le maire d'Orcival devait, le surlendemain, se rendre à Fontainebleau avec toute sa famille et il avait proposé au comte de Trémorel de l'accompagner. Hector avait accepté l'offre avec empressement. On devait atteler à une grande voiture de chasse 4 chevaux qui conduiraient à grande guide. Monsieur Courtois ayant, et avec raison, la plus grande confiance en son habileté. Or, Berthe, qui ne pouvait tolérer cette idée, qu'il passerait toute une journée avec Laurence, venait le conjurer de se dégager. Il ne manquait pas, elle le lui prouvait, de prétexte excellent. Était-il convenable qu'il s'en allât en partie de plaisir pendant que l'existence de son ami était en péril? Il ne voulait pas absolument d'abord, mais à force de prières et surtout de menaces, elle le décida. Et elle ne descendit qu'après qu'il eût juré qu'il écrirait, le soir même, une lettre d'excuse à M. Courtois. Il tint sa parole, mais il finissait par être excédé de cette tyrannie. Il était las d'immoler sans cesse sa volonté de sacrifier sa liberté à ce point qu'il ne pouvait rien projeter, rien dire, rien promettre avant d'avoir consulté l'œil clair de cette femme jalouse qui ne permettait pas qu'il s'écartât du cercle de ses jupons. De plus en plus, la chaîne devenait lourde et le meurtrissait, et il commençait à comprendre qu'elle ne se délirait pas seule, à la longue, mais que tôt ou tard, il lui faudrait la briser. Il n'avait jamais aimé Berthe, ni Fancy, ni personne probablement, et il aimait la fille du maire d'Orcival. Le million qui devait former sa couronne de mariée avait commencé par l'éblouir, mais peu à peu, il avait subi le charme pénétrant qui s'exhalait de la personne de Laurence. Il était séduit, lui, le viveur blasé, par tant de grâce, tant d'innocence naïve, par tant de candeur et de beauté. Si bien qu'il eût épousé Laurence pauvre, comme Sauvresy avait épousé Berthe. Mais cette Berthe, il la redoutait trop pour la braver ainsi tout à coup, et il se résigna à attendre encore, à ruser. Dès le lendemain de la scène au sujet de Fontainebleau, il se déclara souffrant, attribuant son malaise au manque d'exercice, et tous les jours, il monta à cheval 2 ou 3 heures. Il n'allait pas bien loin, il allait jusque chez M. Courtois. Berthe, tout d'abord, n'avait rien vu de suspect à ses promenades du comte de Trémorel. Il sortait à cheval et cela la rassurait, comme certains maris qui se croient à l'abri de tout malheur parce que leur femme ne se promène qu'en voiture. Mais après quelques jours, l'examinant mieux, elle crut découvrir en lui une certaine satisfaction intime qui s'efforçait de voiler sous une contenance fatiguée. Il avait beau faire, il se dégageait de toute sa personne comme un rayonnement de bonheur. Elle eut des doutes et ils grandirent à chaque sortie nouvelle. Les plus tristes conjectures l'agitaient tant qu'Hector était absent. Où allait-il? Probablement rendre visite à cette Laurence qu'elle redoutait et qu'elle détestait. Ses pressentiments de maîtresse jalouse ne la trompaient pas, elle le vit bien. Un soir, Hector reparut portant à sa boutonnière une branche de bruyère que Laurence elle-même y avait passée et qu'il avait oublié de retirer. Berthe prit doucement cette fleur, l'examina, la flaira, et se contraignant à sourire alors qu'elle endurait les plus cruels déchirements de la jalousie. Voici, dit-elle, une charmante variété de bruyères. C'est ce qu'il m'a semblé, répondit Hector d'un ton dégagé, bien que je ne m'y connaisse pas. Y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander qui vous l'a donné? Aucune, c'est un cadeau de notre cher juge de paix, le père Plantin. Tout Orcival savait parfaitement que de sa vie, le juge de paix, ce vieil horticulteur maniaque, n'avait donné une fleur à qui que ce fût, sauf à Mademoiselle Courtois. La défaite était malheureuse, et Berthe ne pouvait en être dupe. Vous m'aviez promis, Hector, commença-t-elle, de cesser de voir Mademoiselle Courtois, de renoncer à ce mariage. Il essaya de répondre. Laissez-moi parler, fit-elle. Vous vous expliquerez après. Vous avez manqué à votre parole, vous vous êtes joué de ma confiance, je suis folle de m'en étonner. Seulement, aujourd'hui, après mûre réflexion, je viens vous dire que vous n'épouserez pas Mademoiselle Courtois. Aussitôt, sans attendre sa réplique, elle entama l'éternelle litanie des femmes séduites ou qui prétendent l'avoir été. Pourquoi était-il venu? Elle était heureuse dans son ménage avant de le connaître. Elle n'aimait pas Sauvresie, il est vrai. Mais elle l'estimait, il était bon pour elle. Ignorant les félicités divines de la passion vraie, elle ne les désirait pas. Mais il s'était montré et elle n'avait pas su résister à la fascination. Pourquoi avait-il abusé de ce qu'irrésistiblement elle se sentait entraînée vers lui? Et voilà que maintenant, après l'avoir perdue, il prétendait se retirer, en épouser une autre, lui laissant pour tout souvenir de son passage la honte et le remords d'une faute abominable. Trémorel l'écoutait, abasourdi de son audace. C'était à n'y pas croire. Quoi, elle osait prétendre que c'était lui qui avait abusé de son inexpérience, quand, au contraire, la connaissant mieux, il avait été parfois épouvanté de sa perversité. Telle était la profondeur de la corruption qu'il découvrait en elle, il se demandait s'il était son premier amant ou le 20e. Mais elle l'avait si bien poussé à bout, elle lui avait si rudement fait sentir son implacable volonté, qu'il était décidé à tout plutôt que de subir davantage ce despotisme. Il s'était promis qu'à la première occasion, il résisterait, irrésistable. « Eh bien oui, déclara-t-il nettement, je vous trompais. Je n'ai pas d'avenir, ce mariage m'en assura, je me marie. » Et il reprit tous ses raisonnements passés, jurant que moins que jamais il aimait Laurence, mais que de plus en plus il convoitait l'argent. « La preuve, continuait-il, c'est que si demain vous me trouviez une femme ayant 1 200 000 francs au lieu d'1 000 000, je l'épouserais préférablement à Mademoiselle Courtois. » Jamais elle ne lui aurait cru tant de courage. Il y avait si longtemps qu'elle le pétrissait comme la cire molle que cette résistance inattendue la déconcerta. Elle était indignée, mais en même temps elle éprouvait cette satisfaction malsaine qui délecte certaines femmes lorsqu'elles rencontrent un maître qui les bat. Et son amour pour Trémorel, qui s'en allait faiblissant, reprenait une nouvelle énergie. Puis il avait trouvé cette fois des accents pour la convaincre. Elle le méprisait assez pour le supposer très capable de se marier uniquement pour de l'argent. Quand il eut terminé, « C'est donc bien vrai, lui dit-elle, vous ne tenez qu'au million. Je vous l'ai juré 100 fois. Vous n'aimez vraiment pas Laurence. Berthe m'a bien aimé, je n'ai jamais aimé, je n'aimerai jamais que vous. » Il pensait qu'ainsi, berçant Berthe de paroles d'amour, il parviendrait à l'endormir jusqu'au jour de son mariage. Et une fois marié, il se souciait bien vraiment de ce qui adviendrait. Que lui apportait Sauvresie? La vie de l'homme fort n'est qu'une suite d'amitiés brisées. Qu'est-ce en somme qu'un ami? Un être qui peut et doit vous servir? L'habileté consiste précisément à rompre avec les gens le jour où ils cessent de vous être utiles. De son côté, Berthe réfléchissait. « Écoutez, dit-elle enfin à Hector, je ne saurais là froidement me résigner au sacrifice que vous exigez. De grâce, laissez-moi quelques jours encore pour m'habituer aux coups terribles. Attendez, vous me devez bien cela. Laissez Clément se rétablir. » Il n'en revenait pas de l'avoir si facile et si douce. Qui se serait attendu à de telles concessions si aisément obtenues? L'idée d'un piège ne lui venait pas. Dans son ravissement, il eut un transport d'enthousiasme qui eût pu éclairer Berthe, mais qui passa inaperçu. Il lui prit la main et l'embrassa avec transport en disant « Ah, vous êtes bonne et vous m'aimez vraiment !» Le comte de Trémorel ne supposait pas que le répit demandé par Berthe dût être de longue durée. Depuis une semaine, Sauvresie semblait aller mieux. Il se levait maintenant, il commençait à aller et venir dans la maison, et même il recevait sans trop de fatigue la visite de ses nombreux amis du voisinage. Mais hélas, le maître du Valfeuillu n'était plus que l'ombre de lui-même. Jamais à le voir plus blême que la cire, exsangue, chancelant, la joue creuse, l'œil brillant d'un feu sombre, on aurait reconnu ce robuste jeune homme aux lèvres rouges, au visage épanoui, qui, le long du restaurant de Sèvres, avait arrêté la main de Trémorel. Il avait tant souffert, 20 fois la maladie avait failli le terrasser, 20 fois l'énergie de son indomptable volonté avait repris le dessus. Il ne voulait pas, non, il ne voulait pas mourir avant de s'être vengé de ces infâmes qui lui avaient pris son bonheur et sa vie. Mais quel châtiment leur infliger? Il cherchait, et c'était là l'idée fixe qui, brûlant son cerveau, allumait la flamme de son regard. Dans les circonstances ordinaires de la vie, 3 parties se présentent pour servir la colère et la haine du mari trompé. Il a le droit, presque le devoir, de livrer sa femme et son complice aux tribunaux. La loi est pour lui. Il peut épier adroitement les coupables, les surprendre et les tuer. Il y a un article du code qui ne l'absout pas, mais qui l'excuse. Enfin, rien ne l'empêche d'affecter une philosophique indifférence, de rire le premier et le plus haut de son malheur, de chasser purement et simplement sa femme et de la laisser manquer de tout. Mais quelle pauvre, quelle misérable vengeance! Livrer sa femme aux tribunaux, n'est-ce pas de gaieté de cœur courir au-devant de l'opprobre? Offrir son nom, son honneur, sa vie à la risée publique? N'est-ce pas se mettre à la merci d'un avocat qui vous traîne dans la boue? On ne défend pas la femme adultère, on attaque son mari, c'est plus commode. Et quelle satisfaction tiendrait-il? Berthe et Trémorel seraient condamnés à 1 an de prison, à 18 mois, à 2 ans au plus. Tuer les coupables lui semblait plus simple. Et encore, il entrerait, déchargerait sur eux un revolver. Ils n'auraient pas le temps de se reconnaître, leur agonie ne durerait pas 1 minute, et après? Après, il lui faudrait se constituer prisonnier, subir un jugement, se défendre, invoquer l'indulgence du législateur, risquer une condamnation. Quant à chasser sa femme, c'était la livrer bénévolement à Hector. Il devait supposer qu'ils s'adoraient, et il les voyait, quittant le Valfeuillu la main dans la main, heureux, riant, se moquant de lui, pauvre niais. À cette pensée, il était pris d'accès de rage froide, tant il est vrai que les pointes aiguës de l'amour-propre ajoutent une douleur aux plus douloureuses blessures. Aucune de ces vengeances vulgaires ne pouvait le satisfaire. Il voulait quelque chose d'inouï, de bizarre, d'excessif, comme l'offense, comme ses tortures. Et il se reprenait à songer à toutes les histoires sinistres qu'il avait lues, cherchant un supplice applicable aux circonstances présentes. Il avait le droit d'être difficile, il était déterminé à attendre, et d'avance, il avait fait le sacrifice de sa vie. Une seule chose pouvait renverser ses projets, la lettre arrachée à Jenny Fancy. Qu'était-elle devenue? L'avait-il donc perdue dans les bois de Maupré-voire? Il avait cherché partout et ne l'avait pas retrouvée. Il s'accoutumait d'ailleurs à feindre, trouvant comme une jouissance cruelle dans la contrainte qu'il s'imposait. Il avait su se composer une contenance qui ne laissait rien deviner des pensées qui le hantaient. C'est sans frissonnement apparent qu'il subissait les flétrissantes caresses de cette femme, jadis tant aimée. Jamais il n'avait tendu à son ami Hector une main plus largement ouverte. Le soir, lorsqu'ils se trouvaient tous 3 réunis sous la lampe, il prenait sur lui d'être gai, il bâtissait 1000 riants, châteaux en Espagne, pour plus tard, quand on lui permettrait de sortir, quand il irait tout à fait bien. Le comte de Trémorel se réjouissait. « Voici Clément sur pied pour tout de bon cette fois, » dit-il un soir à Berthe. Elle ne comprenait que trop le sens de cette phrase. « Vous songez donc toujours à Mademoiselle Courtois » demanda-t-elle. « Ne m'avez-vous pas permis d'espérer ? Je vous ai prié d'attendre, Hector, et vous avez bien fait de ne pas vous hâter. Je sais une femme qui vous apporterait non pas 1, mais 3 millions de dots. » Il fut péniblement surpris. En vérité, il ne songeait qu'à Laurence, et voici qu'un nouvel obstacle se dessinait. « Et quelle est cette femme ?» Elle se pencha à son oreille et d'une voix frémissante. « Je suis la seule héritière de Clément, » dit-elle. « Il peut mourir, je puis être veuve demain. » Hector fut comme pétrifié. « Les sauvres-y, » répondit-il, « se portent, Dieu merci, à merveille. » Berthe fixa sur lui ses grands yeux clairs et avec un calme effrayant dit « Qu'en savez-vous ? » Trémorel ne voulut pas, n'osa pas demander la signification de ces paroles étranges. Il était de ces hommes faibles qui fuient les explications, qui, plutôt que de se mettre en garde lorsqu'il en est temps encore, se laissent niaisement acculer par les circonstances. Être mou et veule, qui, avec une lâche préméditation, se bande les yeux pour ne pas voir le danger qui les menace, et qui, à une situation nette et définie qu'ils n'ont pas le courage d'envisager, préfèrent les langueurs du doute et les transactions de l'incertitude.
D'ailleurs, bien que redoutant Berthe et la détestant un peu, il éprouvait à mesurer ses angoisses une puérile satisfaction. À voir l'acharnement et la persistance qu'elle déployait pour le défendre, pour le conserver, il concevait de sa valeur et de son mérite une estime plus grande. Pauvre femme, pensait-il, voici que dans sa douleur de me perdre, de me voir à une autre, elle est venue à souhaiter la mort de son mari. Et telle était son absence de sens moral, qu'il ne comprenait pas tout ce qu'il y avait de vil, de répugnant, d'odieux dans les idées qu'il supposait à Madame Sauvresy et dans ses propres réflexions. Cependant, les alternatives de mieux et de plus mal de Sauvresy donnaient tort à l'assurance du comte de Trémorel. Ce jour-là même, et lorsqu'on croyait bien qu'enfin la convalescence de Sauvresy allait désormais marcher rapidement, il fut obligé de se remettre au lit. Cette rechute se déclara après un verre de quinquina qu'il avait l'habitude depuis une semaine de prendre avant son repas du soir. Seulement, cette fois, les symptômes changèrent de tout au tout, comme si à la maladie qui avait failli l'emporter succédait une autre maladie complètement différente. Il se plaignait de picotements à la peau, de vertiges, de commotions convulsives qui contractaient et tordaient tous ses membres, particulièrement ses bras. D'intolérables névralgies faciales lui arrachaient des cris par moments. Un affreux goût de poivre persistant, tenace, que rien ne pouvait atténuer, lui faisait sans cesse ouvrir et fermer la bouche. Il ressentait une agitation inquiète qui se traduisait par des insomnies dont la morphine à haute dose ne triomphait pas. Enfin, il éprouvait un affaissement mortel et un froid de plus en plus intense, venant non de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme si la température du corps eût graduellement diminué. Quant au délire, ils avaient complètement disparu, et le malade conservait la parfaite lucidité de son intelligence. Au milieu de telles épreuves, Sauvresy montrait la plus indomptable vaillance, réagissant tant qu'il pouvait contre la douleur. Jamais il n'avait paru attacher une importance si grande à l'administration de son immense fortune. Perpétuellement, il était en conférence avec des gens d'affaires, il mandait à tout propos des notaires et des avocats, et s'enfermait avec eux des journées entières. Puis, sous prétexte qu'il lui fallait des distractions, il recevait tous les gens d'Orcival qui le venaient voir. Et quand, par hasard, il n'avait pas de visiteurs, vite, il envoyait chercher quelqu'un, assurant que seul il ne pouvait s'empêcher de songer à son mal, souffrant par là même bien davantage. De ce qu'il faisait, de ce qu'il tramait, pas un mot, et Berthe, réduite aux conjectures, était dévorée d'anxiété. Souvent, lorsqu'un homme d'affaires était resté avec son mari plusieurs heures, elle le guettait à sa sortie, et se faisant aussi aimable, aussi séduisante que possible, elle mettait en œuvre toute sa finesse pour obtenir quelques renseignements qui l'éclairât. Mais nul de ceux auxquels elle s'adressait ne pouvait ou ne voulait rassurer sa curiosité. Ils n'avaient tous que des réponses vagues, soit que Sauvresy leur eût recommandé la discrétion, soit qu'en effet, ils n'eussent rien à dire. Personne, d'ailleurs, n'entendit Sauvresy se plaindre. Ses conversations roulaient d'habitude sur Berthe et sur Hector. Il voulait que tout le monde sût bien leur dévouement. Il ne les appelait que ses anges gardiens, bénissant le ciel de lui avoir donné une telle femme et un tel ami. Avec tout cela, si grave était son état que l'optimiste de Trémorel commençait à désespérer. Ses alarmes étaient vives. Quelle situation lui ferait la mort probable de son ami? Berthe, veuve, deviendrait implacable, elle serait libre de tout oser, et que n'oserait-elle pas? Il se promit qu'à la première occasion, il s'efforcerait de démêler les sentiments exacts de Madame Sauvresy. Elle vint d'elle-même au-devant de ses intentions. C'était dans l'après-midi, le père Plantat était près du malade, ils avaient la certitude de n'être ni écoutés, ni interrompus. « Il me faut un conseil, Hector, commença Berthe, et seul vous pouvez me le donner. Comment savoir si, dans ces derniers jours, Clément n'a pas changé ses dispositions à mon égard ?»«
Ses dispositions ?»«
Oui, je vous ai dit que par un testament dont j'ai la copie, Sauvresy me lègue toute sa fortune. Je tremble qu'il ne l'ait révoquée. » »«
Quelle idée ! » !»«
Ah, j'ai des raisons pour craindre. Est-ce que la présence au Valfeuillu de tous ces gens de loi ne trahit pas quelque machination perfide ? Savez-vous que d'un trait de plume, cet homme peut me ruiner ? Savez-vous qu'il peut m'enlever ses millions et me réduire aux 50 000 francs de ma dot ? » ?»«
Mais il ne le fera pas, répondit-il, cherchant sottement à la rassurer.
Il vous aime.
Qui vous le garantit ? Interrompit-elle brusquement. Je vous ai annoncé 3 millions. C'est 3 millions qu'il me faut.
Non pour moi, Hector, mais pour vous. Je les veux, je les aurai. Mais comment savoir ? Comment savoir ?
L'indignation de Trémorel était grande. Voilà donc où l'avait conduit ses alternoiements, l'étalage de ses convoitises d'argent. Elle se voyait le droit, maintenant, de disposer de lui sans se soucier de sa volonté, l'achetant, en quelque sorte, et ne pouvoir, n'oser rien dire.
« Il faut patienter, conseilla-t-il. Attendre. »«
Attendre quoi ? » reprit-elle avec violence. « Qu'il soit mort ?»«
Ne parlez pas ainsi, » fit-il.
« Pourquoi donc ?»
Berthe se rapprocha de lui et d'une voix sourde sifflant. « Il n'a plus 8 jours à vivre, » dit-elle. « Et tenez !» Elle sortit de sa poche et lui montra un petit flacon de verre bleu bouché à l'émerie. « Voici qui m'assure que je ne me trompe pas. » Hector devint livide et ne put retenir un cri d'horreur. Il comprenait tout, maintenant. Il s'expliquait l'inexplicable facilité de Berthe, son affectation à ne plus parler de Laurence, ses propos bizarres, son assurance.
« Du poison ! » balbutia-t-il, confondu de tant de perversité. « Du poison ?
Oui, du poison !»
« Vous ne vous en êtes pas servi ?»
Elle arrêta sur lui son regard insupportable de fixité, ce regard qui brisait sa volonté, sous lequel d'ordinaire il se débattait en vain, et d'une voix calme, appuyant sur chaque mot, elle répondit « Je m'en suis servi. » Certes, le comte de Trémorel était un homme dangereux, sans préjugés, sans scrupules, ne reculant devant aucune infamie quand il s'agissait de l'assouvissement de ses passions,
capable de tout, mais ce crime horrible réveilla en lui tout ce qui lui restait encore d'énergie honnête. « Eh bien, s'écria-t-il révolté, vous ne vous en servirez plus !» Il se dirigeait déjà vers la porte, frémissant et perdu. Elle l'arrêta. « Avant d'agir, fit-elle froidement, réfléchissez. Vous êtes mon amant, j'en fournirai la preuve. À qui ferez-vous entendre qu'étant mon amant, vous n'êtes pas mon complice ?» Il sentit toute la portée de cette terrifiante menace dans la bouche de Berthe. « Allez, poursuivit-elle d'un ton ironique, parlez, demandez à faire des révélations. Quoi qu'il arrive, dans le bonheur ou dans l'infamie, nous ne serons plus séparés, nos destinées seront pareilles. » Hector s'était laissé tomber pesamment sur un fauteuil, plus assommé que s'il eût reçu un coup de massue. Il prenait entre ses mains crispées son front qui lui semblait près d'éclater. Il se voyait, il se sentait enfermé dans un cercle infernal, sans issue. « Mais je suis perdu !» balbutia-t-il sans savoir ce qu'il disait. « Je suis perdu !» Il était à faire pitié, sa figure était affreusement décomposée, de grosses gouttes de sueur perlaient à la racine de chacun de ses cheveux, ses yeux avaient l'égarement de la folie. Berthe lui secoua rudement le bras, sa misérable lâcheté l'indignait. « Vous avez peur ?» lui disait-elle. « Vous tremblez ? Perdu ? Vous ne prononceriez pas ce mot si vous m'aimiez autant que je vous aime. Serez-vous perdu parce que je serai votre femme? Parce qu'enfin, nous nous aimerions librement à la face de toute la terre? Perdu? Mais vous n'avez donc pas idée de ce que j'ai enduré? Vous ne savez donc pas que je suis lasse de souffrir, lasse de craindre, lasse de feindre? Un si grand crime! Elle eut un éclat de rire qui le fit frissonner. Il fallait, reprit-elle avec un regard écrasant de mépris, faire vos réflexions le jour où vous m'avez prise à Sauvresy, le jour où vous avez volé la femme de cet ami qui vous avait sauvé la vie. Pensez-vous que ce crime soit moins grand, moins affreux? Vous saviez comme moi tout ce qu'il y avait pour moi d'amour au fond du cœur de mon mari. Vous saviez qu'entre mourir et me perdre de cette façon, s'il lui fallu choisir, il n'eût pas hésité. Mais il ne sait rien, balbutiait Hector. « Il ne se doute de rien. »« Vous vous trompez. Sauvresy, c'est tout. »« C'est impossible. »« Tout, vous dis-je. Et cela depuis le jour où il est revenu si tard de la chasse. »« Vous souvient-il qu'observant son regard, je vous ai dit, « Hector, mon mari, se doute de quelque chose. »« Vous avez haussé les épaules. »« Vous rappelez-vous les pas dans le vestibule le soir où j'étais allé vous rejoindre dans votre chambre ?»« Il nous avait... » « Épiez, enfin, voulez-vous une preuve plus forte, plus décisive ? Examinez cette lettre que j'ai retrouvée froissée, mouillée dans la poche d'un de ses vêtements. » Et parlant ainsi, elle mettait sous ses yeux la lettre arrachée à Miss Jency Fancy, et il la reconnaissait bien. « C'est une fatalité, répétait-il, visiblement accablé, vaincu. Mais nous pouvons rompre, Berthe, je puis m'éloigner. » « Il est trop tard. Croyez-moi, Hector, c'est notre vie aujourd'hui que nous défendons. Ah, vous ne connaissez pas Clément. Vous ne vous doutez pas de ce que peut être la fureur d'un homme comme lui lorsqu'il s'aperçoit qu'on s'est odieusement joué de sa confiance, qu'on l'a trahi indignement. S'il ne m'a rien dit, s'il ne nous a rien laissé voir de son implacable ressentiment, c'est qu'il médite quel affreux projet de vengeance. » Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.